Chapitre 32. Il faut que les Bahaïs s'efforcent de tout leur cœur d'améliorer la condition de l'humanité. Quel bonheur de voir une réunion comme celle-ci. C'est vraiment une assemblée céleste. Nous sommes tous unis dans un même but sacré, sans aucun mobile matériel, et notre plus cher désir est de répandre l'amour de Dieu dans le monde. Nous travaillons et prions pour établir l'unité de l'humanité, pour que toutes les races de la terre fusionnent en une seule, que toutes les nations deviennent une nation unique, et pour que tous les cœurs battent comme un seul cœur dans un effort commun vers l'unité et la fraternité parfaite. Rendons grâce à Dieu de ce que nos efforts soient sincères et que nos cœurs soient tournés vers le royaume. Notre plus ardent désir et que cette vérité soit instaurée dans le monde. Et c'est dans cet espoir que par notre amour et notre amitié, nous nous rapprochons les uns des autres. Chacun d'entre nous est sincère et désintéressé, disposé à sacrifier toute ambition personnelle en vue du grand idéal vers lequel nous tendons de toutes nos forces, fraternité, amour, paix et union entre les hommes. Nul doute que Dieu soit avec nous, omniprésent, que de jour en jour il n'augmente notre nombre et que nos réunions deviennent plus fortes et plus efficaces. C'est mon plus cher espoir que vous deveniez tous une source de bénédiction pour les autres, que vous donniez la vue et l'ouïe à ceux qui sont spirituellement sourds et aveugles, et la vie à ceux qui sont endurcis dans le péché. Puissiez-vous aider ceux qui ont sombré dans le matérialisme à se rendre compte de leur filiation divine, les encourager à s'élever et à se montrer dignes de leur droit de naissance. Ainsi, par vos efforts, le monde pourra devenir le royaume de Dieu et de ses élus. Je rends grâce à Dieu que nous soyons unis dans cet idéal grandiose, que mon ardent désir soit aussi le vôtre et que notre coopération ait lieu dans une parfaite unité. Aujourd'hui, sur la terre, nous assistons au triste spectacle de guerre cruelle. L'homme massacre son frère pour un intérêt égoïste et pour agrandir son territoire. La haine s'est emparée de son cœur à cause de cette ambition ignoble et le sang coule de plus en plus. De nouvelles batailles se livrent, on forme de nouvelles armées, on fabrique plus de fusils, plus de canons et plus d'explosifs de toutes sortes. Et ainsi, la haine et l'amertume augmentent de jour en jour. Mais cette assemblée, Dieu en soit loué, aspire uniquement à la paix et à l'unité. Il faut qu'elle travaille de tout cœur pour établir une meilleure condition dans le monde. Vous qui êtes les serviteurs de Dieu, luttez contre l'oppression, la haine et la discorde, afin que les guerres disparaissent et que les lois de Dieu, paix et amour, puissent s'établir parmi les hommes. Travaillez, travaillez de toutes vos forces à propager la cause du royaume de Dieu parmi les hommes. Apprenez à l'orgueilleux à se tourner humblement vers Dieu, aux pécheurs à renoncer au péché, et attendez dans la joie et l'espoir la venue du royaume. Aimez votre Père céleste et obéissez-lui, et soyez certains que l'assistance divine vous est acquise. En vérité, je vous le dis, vous ferez réellement la conquête du monde. Ayez seulement de la foi, de la patience et du courage. Nous ne faisons que commencer, mais vous réussirez sûrement parce que Dieu est avec vous. Chapitre 33. De la calomnie. Depuis la naissance de l'humanité jusqu'à nos jours, chaque manifestation envoyée par Dieu a rencontré l'opposition de la part d'une incarnation des puissances des ténèbres. Cette force obscure a toujours tâché d'éteindre la lumière. Nota, les manifestations de Dieu ou messagers de Dieu. La tyrannie a toujours cherché à triompher de la justice. L'ignorance a essayé de manière persistante de fouler aux pieds la connaissance. Telle fut, depuis les âges les plus lointains, la méthode du monde matériel. Au temps de Moïse, le Pharaon s'efforça d'empêcher la diffusion de la lumière de Moïse. Au temps du Christ, Anne et Calphe excitèrent le peuple juif contre lui, et les savants docteurs d'Israël s'unirent pour résister à son pouvoir. Toutes sortes de calomnies furent mises en circulation contre lui. Les scribes et les pharisiens conspirèrent pour faire croire au peuple que c'était un menteur, un apostat et un blasphémateur. Ils répandirent partout dans le monde oriental ces médisances contre le Christ, et ils le firent condamner à une mort infamante. Il en fut de même pour Mohammed. Les savants docteurs de son temps résolurent d'anéantir le rayonnement de son influence. Ils essayèrent d'enrayer par la force de l'épée la propagation de son enseignement. En dépit de tous leurs efforts, le soleil de vérité se montra à l'horizon. L'armée de lumière a toujours vaincu les puissances ténébreuses sur le champ de bataille du monde, et le rayonnement de l'enseignement divin a illuminé la terre. Ceux qui acceptèrent cet enseignement et travaillèrent pour la cause de Dieu devinrent des étoiles lumineuses au ciel de l'humanité. De nos jours, l'histoire se répète. Ceux qui voudraient faire croire aux hommes que la religion est leur monopole unissent leurs efforts une fois de plus pour lutter contre le soleil de vérité. Ils résistent aux commandements de Dieu, ils inventent des calomnies, n'ayant contre lui ni preuve ni argument. Ils attaquent sournoisement, n'osant affronter la lumière du jour. Nos méthodes sont tout autres. Nous n'employons ni les attaques, ni les calomnies. Nous ne voulons pas discuter avec eux. Nous produisons nos preuves et nos arguments, et nous les invitons à réfuter nos assertions. Ils sont incapables de répondre. Aussi écrivent-ils contre Baha'u'llah, le divin messager, tout ce qu'ils peuvent imaginer. Que vos cœurs ne soient pas désemparés par ces écrits diffamatoires. Obéissez à Baha'u'llah et ne leur répondez pas. Réjouissez-vous plutôt, car ces écrits mensongers eux-mêmes amèneront la diffusion de la vérité. Ces calomnies provoquent des enquêtes et conduisent ainsi à connaître la foi. Si quelqu'un déclare « Il y a une lampe dans la pièce voisine qui ne donne aucune lumière », certains pourront se contenter de ce rapport. Mais une personne avisée ira dans la pièce pour juger par elle-même, et voyant alors la lumière qui jaillit brillamment de la lampe, elle saura la vérité. De même, si quelqu'un s'écrie « Je connais un jardin où les arbres ne portent pas de fruits, dont les branches sont brisées et les feuilles flétries et jaunies. On y trouve encore des plantes à fleurs qui ne fleurissent pas et des buissons de roses fanés et mourants. N'allez pas dans ce jardin. » En entendant cette description, une personne réfléchie ne s'en contentera pas, mais vérifiera par elle-même. Une fois entrée dans ce jardin, elle constatera qu'il est cultivé avec soin. Les branches des arbres, fortes et vigoureuses, sont surchargées de fruits mûrs des plus exquis, au milieu d'un exubérant et admirable feuillage vert. Les plantes sont épanouies en fleurs multicolores. Les rosiers sont couverts de ravissantes roses parfumées, et tout est verdoyant et bien soigné. Découvrant la splendeur de ce jardin, cette personne avisée rendra grâce à Dieu d'avoir été conduite par le fait d'une indigne calomnie dans un lieu d'une si merveilleuse beauté. Tel est le résultat de la médisance, amener les hommes à découvrir la vérité. Nous savons que tous les mensonges répandus sur le Christ et sur ses apôtres, ainsi que tous les livres écrits contre lui, amenèrent simplement les peuples à s'enquérir de sa doctrine. Lorsqu'ils virent la beauté et respirèrent le parfum de ce céleste jardin, ils cheminèrent à jamais parmi ses roses et ses fruits. C'est pourquoi je vous dis, répandez de votre mieux la divine vérité, afin d'éclairer l'intelligence des hommes. Ce sera la meilleure réponse à la calomnie. Je n'ai pas envie de vous parler des calomniateurs, ni de vous dire du mal d'eux, mais seulement de vous avertir que la calomnie est sans importance. Des nuages peuvent voiler le soleil, mais si épais qu'il soit, ses rayons perceront quand même. Rien ne peut arrêter le rayonnement du soleil descendant sur le divin jardin pour lui donner la chaleur et la vie. Rien ne peut empêcher la pluie de tomber du ciel. Rien ne peut empêcher les paroles de Dieu d'atteindre leur but. Aussi, quand vous découvrirez des livres et des documents contre la révélation, n'en soyez pas tourmentés. consolez-vous dans la certitude que la cause en sera renforcée. Personne ne jette de pierre à un arbre sans fruit. Personne ne tâche d'éteindre une lampe si elle n'est pas allumée. Considérez les temps passés. Les calomnies du Pharaon eurent-elles de l'effet? Il affirma que Moïse était un meurtrier, qu'il avait tué un homme et méritait d'être exécuté. Il déclara encore que Moïse et Aaron étaient des fomentateurs de discorde, qu'ils essayaient de détruire la religion d'Égypte et que par conséquent, il fallait les mettre à mort. Ces paroles, le Pharaon les prononça en vain. La lumière de Moïse brilla, la splendeur de la loi de Dieu a encerclé le monde. Quand les pharisiens dirent du Christ qu'il avait rompu le sabbat, qu'il avait bravé la loi de Moïse, qu'il avait menacé de détruire le temple et la sainte cité de Jérusalem, et qu'il méritait d'être crucifié, nous savons que toutes ces attaques calomnieuses ne réussirent pas à empêcher les évangiles de se répandre. Le soleil du Christ resplendit au ciel, et la brise du Saint-Esprit souffla sur la terre tout entière. Et je vous l'affirme, aucune calomnie ne peut prévaloir contre la lumière de Dieu. Elle ne peut que provoquer son acceptation universelle. Si une doctrine ne signifie rien, qui donc se donnera le mal de la réfuter? Mais il en est toujours ainsi. Plus grande est la cause, plus nombreux sont les ennemis qui s'élèvent pour tenter de la renverser. Plus la lumière brille, plus dense est l'obscurité. Notre rôle est d'agir conformément aux enseignements de Baha'u'llah, dans l'humilité, la fermeté et la persévérance. Chapitre 34. Il ne peut exister de vrai bonheur ni de véritable progrès sans spiritualité. La férocité et la sauvagerie sont naturelles chez les animaux. Mais les hommes devraient faire preuve de sentiments d'amour et d'affection. Dieu a envoyé tous ses prophètes au monde dans un seul et même but, semer dans le cœur des hommes l'amour et la bonne volonté. Et dans ce noble dessein, les prophètes acceptèrent les souffrances et la mort. Tous les livres sacrés furent écrits pour guider et diriger l'humanité dans la voie de l'amour et de l'unité. Et cependant, en dépit de tout cela, nous assistons au lamentable spectacle de la guerre et des effusions de sang. En tournant les pages de l'histoire ancienne et contemporaine, nous voyons cette malheureuse terre rougie de sang humain. Les hommes s'entretuent comme des loups sauvages, oubliant les lois de l'amour et de la tolérance. À présent, nous sommes dans un âge lumineux, apportant avec le progrès matériel une merveilleuse civilisation. L'intelligence des hommes s'est développée. L'acuité de leur perception s'est agrandie, mais hélas, malgré tout cela, on continue chaque jour à verser le sang. Pensez à la guerre qui se déroule en ce moment entre les Italiens et les Turcs, et réfléchissez un instant à ces peuples infortunés. Combien d'individus ont péri en cette sombre période? Que de foyers ruinés, de veuves désespérées et d'enfants orphelins? Et qu'y a-t-il à gagner en compensation de ses angoisses et de ses chagrins? Seulement un lopin de terre? Ceci prouve que le progrès matériel seul ne suffit pas à élever l'homme. Au contraire, plus il se concentre sur les avantages matériels, plus sa spiritualité s'affaiblit. L'avancement dans le domaine matériel n'était pas si rapide autrefois, et l'on ne répandait pas le sang des hommes en telle profusion. Les combats anciens se livraient sans canons ni fusils, sans obus ni explosifs, sans torpilleurs, sans cuirassés ni sous-marins. Par suite de la civilisation matérielle, nous possédons maintenant toutes ces inventions, et la guerre est plus meurtrière que jamais. L'Europe elle-même est devenue comme un immense arsenal plein d'explosifs. Que Dieu les empêche de prendre feu, sinon le monde tout entier sera entraîné. Je veux vous faire comprendre que le progrès matériel et le progrès spirituel sont deux choses très différentes. Aucun progrès réel ne sera accompli et la très grande paix ne s'établira pas dans le monde tant que l'avancement matériel et le développement spirituel ne marcheront pas de concert. Si les hommes suivaient les préceptes sacrés et les enseignements des prophètes, si la lumière divine éclairait tous les cœurs et que les hommes fussent vraiment religieux, nous verrions bientôt régner la paix sur la terre et le royaume de Dieu s'établir parmi les hommes. On peut comparer les lois de Dieu à l'âme et le progrès matériel au corps. S'il n'était animé par l'âme, le corps cesserait d'exister. Ma prière la plus ardente est que la spiritualité puisse croître et se développer sans cesse dans le monde, pour que les mœurs soient éclairées et que s'établissent la paix et la concorde. La guerre, les rapines et les cruautés qui en découlent sont abominables aux yeux de Dieu et portent en elles-mêmes leur propre châtiment. Car le Dieu d'amour est aussi un Dieu de justice, et chaque homme doit inévitablement récolter ce qu'il a semé. Tâchons de comprendre les commandements du Très-Haut et d'organiser notre vie selon ce qu'il nous a ordonné. Le véritable bonheur dépend du bien spirituel et il exige un cœur toujours ouvert pour recevoir la bonté divine. Si le cœur se détourne des bénédictions que Dieu offre, quel bonheur peut-il espérer? S'il ne met pas son esprit et sa confiance en la grâce de Dieu, où trouvera-t-il le repos? Ah, confiez-vous à Dieu, car sa bonté est inépuisable et ses bénédictions sont merveilleuses. Placez votre foi dans le Tout-Puissant, car il est infaillible et sa générosité durera à jamais. Son soleil donne continuellement la lumière. Les nuées de sa grâce sont gonflées par les flots de sa compassion, dont il inonde le cœur de ceux qui croient en lui. Sa brise fraîche apporte toujours la guérison aux âmes desséchées des hommes. Est-il sage de se détourner d'un Père aussi aimant, qui fait pleuvoir sur nous ses bénédictions, et de rester volontairement les esclaves de la matière? Dieu, dans son infinie bonté, nous a élevés à un si grand honneur, et il a fait de nous les maîtres du monde matériel. En deviendrons-nous les esclaves? Certes non. Faisons plutôt valoir notre droit de naissance et efforçons-nous de vivre la vie des enfants spirituels de Dieu. Une fois encore, le radieux soleil de vérité s'est levé en Orient. Du lointain horizon de la Perse, son rayonnement se répand de toutes parts, dissipant les nuages opaques de la superstition. La lumière de l'unité de l'humanité commence à éclairer le monde. Et bientôt, l'étendard de l'harmonie divine et de la solidarité des nations flottera très haut dans les cieux. Oui, les brises de l'Esprit-Saint inspireront le monde entier. Ô peuple et nation, levez-vous, travaillez et soyez heureux. Rassemblez-vous sous la tente de l'unité du genre humain. Chapitre 35. Joie et souffrance. En ce monde, nous sommes influencés par deux sentiments, la joie et la peine. La joie nous donne des ailes. Quand nous sommes heureux, notre énergie est plus grande, notre intelligence plus vive et notre compréhension moins voilée. Nous semblons mieux à même d'affronter la vie et de découvrir un champ d'activité utile. Mais quand la tristesse nous étreint, notre force nous abandonne, nous devenons faibles. Notre compréhension diminue et notre intelligence s'obscurcit. Les réalités de l'existence semblent nous échapper. Les yeux de notre esprit ne réussissent pas à découvrir les mystères sacrés, et nous devenons comme des êtres sans vie. Aucune créature humaine n'est à l'abri de ces deux influences. Mais tous les chagrins et toutes les afflictions proviennent du monde de la matière. Le monde spirituel ne dispense que la joie. Nos souffrances sont dues à des causes matérielles. Toutes les épreuves et tous les soucis proviennent de ce monde d'illusions. Un marchand pourra, par exemple, faire faillite et tomber dans le découragement. Un ouvrier être congédié et réduit à des privations. Un fermier faire une mauvaise récolte et se sentir plein d'angoisse. Un homme qui a construit sa maison et la voit anéantie par un incendie se trouvera aussitôt sans foyer, ruiné et désespéré. Tous ces exemples sont destinés à vous montrer que les épreuves qui nous assaillent à chaque pas, tous nos chagrins, nos peines, nos humiliations et nos douleurs sont d'origine matérielle, tandis que le monde spirituel n'est jamais cause de tristesse. L'homme qui dirige ses pensées vers ce royaume connaît une joie sans fin. Les maux physiques ne l'atteignent pas. Ils l'affectent seulement d'une manière superficielle, mais il demeure, au fond de lui-même, dans le calme et la sérénité. L'humanité fléchit aujourd'hui sous le poids de l'inquiétude, du chagrin et de la douleur. Personne n'y échappe. Le monde est une vallée de larmes. Mais grâce à Dieu, le remède est à notre portée. Que notre cœur se détourne de la matière pour vivre dans le monde de l'esprit. Seul ce monde peut nous donner la liberté. Si nous sommes entourés de difficultés, il nous suffit d'invoquer Dieu, et par sa grâce infinie, nous serons assistés. Si nous sommes dans l'adversité et le chagrin, que notre visage se tourne vers le royaume qui nous apportera la consolation céleste. Sommes-nous souffrants ou malheureux, implorons de Dieu notre guérison, et il nous exaucera. Quand nos pensées sont remplies par l'amertume de ce monde, tournons notre esprit vers la douceur de la compassion divine, et un calme céleste nous envahira. Sommes-nous emprisonnés sur cette terre? Notre esprit peut s'élever vers les cieux, et nous serons vraiment libres. Quand notre vie touche à sa fin, songeons aux mondes éternels, et nous serons dans la plénitude de la joie. Tout autour de vous, vous découvrez l'épreuve de l'insuffisance des choses matérielles qui sont transitoires et qui ne peuvent donner ni la joie, ni le repos, ni la paix, ni la consolation. N'est-ce donc pas une folie de se refuser à chercher ces trésors où ils peuvent être trouvés? Les portes du royaume spirituel sont ouvertes à tous. Hors de ce royaume, ce n'est que ténèbres absolues. Vous tous ici présents, vous savez cela. Dieu en soit loué, car dans tous vos malheurs, vous pouvez trouver la consolation suprême. Si vos jours sont comptés sur la terre, vous savez que la vie éternelle vous attend. Si les soucis matériels vous enveloppent d'un obscur nuage, le rayonnement spirituel éclaire votre chemin. En vérité, ceux qui sont éclairés par l'Esprit du Très-Haut connaissent la consolation suprême. J'ai vécu moi-même en prison pendant 40 années, alors qu'une seule aurait déjà été impossible à supporter. Personne ne survécut plus d'un an à cet emprisonnement. Mais grâce à Dieu, pendant ces 40 ans, je fus suprêmement heureux. Chaque jour, au réveil, c'était comme l'annonce d'une bonne nouvelle. Et chaque nuit, je ressentais une joie infinie. Les pensées spirituelles étaient mon réconfort. Et recourir à Dieu était mon plus grand bonheur. S'il n'en avait pas été ainsi, croyez-vous que j'aurais pu supporter ces 40 années de prison? Ainsi, la spiritualité est le plus grand don de Dieu. Et recourir à Dieu donne la vie éternelle. Puissiez-vous, les uns et les autres, progresser chaque jour sur le plan spirituel. Puissiez-vous être fortifié pour tout ce qui est bon. Puisse la divine consolation vous soutenir de plus en plus et l'Esprit Saint vous libérer. Puisse enfin le pouvoir du divin royaume s'établir et agir parmi vous. Tel est mon plus ardent désir, et je prie Dieu de vous accorder cette faveur. Chapitre 36. Vertu et sentiment parfait chez l'homme. Vous devriez être tous très heureux et très reconnaissants envers Dieu du grand privilège qui est le vôtre. Notre réunion est purement d'ordre spirituel. Dieu soit loué, vos cœurs sont tournés vers lui, vos âmes attirées vers le royaume, vos aspirations sont spirituelles et vos pensées s'élèvent au-dessus de ce monde de poussière. Vous appartenez au monde de la pureté. Non satisfait d'une vie animale, vous ne passez pas uniquement vos jours à manger, boire et dormir. Vous êtes vraiment des hommes. Vos préoccupations et vos ambitions tendent à acquérir la perfection humaine. Vous vivez pour faire le bien et le bonheur des autres. Votre plus grand désir est de consoler ceux qui pleurent, de fortifier ceux qui sont faibles et de rendre l'espoir aux âmes désespérées. Jour et nuit, vos pensées sont dirigées vers le royaume et vos cœurs sont embrasés par l'amour de Dieu. Vous ignorez ainsi l'opposition, l'antipathie et la haine, car toutes les créatures vivantes vous sont chères et vous désirez leur bonheur à toutes. Ce sont là des vertus et des sentiments humains parfaits. Celui qui n'en aurait aucun ferait mieux de disparaître. Si une lampe cesse d'éclairer, il vaut mieux la jeter. Il est préférable de couper un arbre qui ne donne aucun fruit, car il occupe inutilement la terre. Il est vraiment mille fois préférable qu'un homme disparaisse plutôt que de continuer à vivre sans vertu. Nous avons des yeux pour voir, mais à quoi bon si nous ne nous en servons pas? Nous avons des oreilles pour entendre, mais si nous sommes sourds, à quoi nous servent-elles? Nous avons une langue pour louer Dieu et proclamer les bonnes nouvelles, mais si nous sommes muets, combien elle est inutile? Dieu, qui est tout amour, a créé l'homme pour qu'il reflète la divine lumière et pour qu'il illumine le monde par ses paroles, sa vie et ses œuvres. S'il n'a aucune vertu, il n'est pas meilleur qu'un simple animal, et un animal dépourvu d'intelligence est une chose sans valeur. Le Père Céleste a pourvu l'homme du don inestimable de l'intelligence, afin qu'il puisse devenir un flambeau spirituel qui perce les ténèbres de la matérialité et qui apporte la bonté et la vérité au monde. Si vous suivez avec ferveur les préceptes de Baha'u'llah, vous deviendrez certainement la lumière et l'âme du monde. Vous serez un réconfort et un secours pour l'humanité, et la source de salut pour tout l'univers. Efforcez-vous donc de suivre de tout votre cœur et de toute votre âme les préceptes de la perfection bénie. Et soyez certain que si vous réussissez à vivre suivant ces prescriptions, vous atteindrez à la vie éternelle et à la joie infinie du royaume céleste, et l'aide divine viendra vous fortifier chaque jour de votre vie. C'est ma prière très sincère que chacun d'entre vous puisse atteindre à ce bonheur parfait. Nota, la perfection bénie est l'un des titres de Baha'u'llah. Chapitre 37. Cruelle indifférence aux souffrances des races étrangères. Je viens d'apprendre qu'un terrible accident s'est produit en France. Un train est tombé dans une rivière, occasionnant la mort d'au moins 20 personnes. Ce fait sera l'objet d'une discussion au Parlement français aujourd'hui, et le directeur des chemins de fer de l'État sera invité à faire son rapport. Il sera interrogé sur l'état de la voie ferrée et sur ce qui a pu provoquer l'accident, ce qui donnera lieu à une vive discussion. Je suis confondu de surprise et d'étonnement de voir quel intérêt et quelle surexcitation la mort de ces 20 personnes soulève dans ce pays, alors que tout le monde reste froid et indifférent devant le massacre de milliers d'Italiens, de Turcs et d'Arabes tués à Tripoli. L'horreur de cette hécatombe n'a nullement ému le gouvernement. Pourtant, ces malheureux sont aussi des êtres humains. Pourquoi témoigner tant d'intérêt et une aussi vive sympathie pour ces 20 personnes et rester indifférent devant 5000 victimes? Ce sont tous des hommes. Ils font tous partie de la famille humaine. Mais ils appartiennent à d'autres pays et à d'autres races. Il importe peu aux nations indifférentes que ces hommes soient taillés en pièces. Ce massacre en masse ne les touche pas. Que ceci est injuste. Que ceci est cruel et dénote l'absence totale de tout sentiment vrai et bon. Les habitants de ces autres pays ont des enfants, des épouses, des mères, des filles et des petits-enfants. En ces contrées-là, aujourd'hui, à peine reste-t-il une maison où l'on n'entende pas le bruit d'amers sanglots et où l'on puisse trouver un foyer que la main cruelle de la guerre ait épargné. Nous découvrons partout, hélas, combien l'homme est injuste, cruel, rempli de préjugés, et comme il est long à croire en Dieu et à suivre ses commandements. Si ces peuples s'aimaient et s'entraidaient, au lieu d'être si empressés à détruire par l'épée et le canon, comme ce serait plus noble. Ne vaudrait-il pas mieux vivre comme une volée de tourterelles, dans la paix et l'harmonie, au lieu de se déchirer les uns et les autres comme des loups? Pourquoi l'homme fait-il preuve d'une telle dureté de cœur? C'est parce qu'il ne connaît pas encore Dieu. S'il le connaissait, il ne pourrait agir en opposition complète avec ses lois. S'il était ouvert à la spiritualité, une telle conduite lui serait impossible. Si seulement on avait cru aux lois et aux préceptes des prophètes de Dieu, si on les avait compris et observés, la guerre cesserait d'assombrir la surface de la terre. Si l'homme possédait, ne fût-ce que d'élémentaires notions de justice, un tel état de choses serait impossible. C'est pourquoi je vous dis de prier. Tournez-vous vers Dieu et priez-le pour que, en sa miséricorde et en sa compassion infinie, il porte aide et secours à ses égarés. Implorez-le de leur accorder l'entendement spirituel, de leur enseigner la tolérance et la pitié, afin que s'éveille leur intelligence et qu'ils puissent recevoir le don de l'esprit. La paix et l'amour progresseront alors de concert à travers le monde et ces peuples infortunés trouveront le repos. Nuit et jour, efforçons-nous de contribuer à améliorer les conditions de la vie. Mon cœur est brisé de chagrin et je déplore bien haut cet effroyable état de choses. Puisse ce cri de douleur toucher d'autres cœurs. Alors les aveugles verront, les morts seront ressuscités et la justice s'établira et régnera sur la terre. Je vous conjure tous de prier de tout votre cœur et de toute votre âme pour que ces conditions se réalisent. Chapitre 38. Ne vous découragez pas d'être en petit nombre. Quand le Christ apparut, ce fut à Jérusalem qu'il se manifesta. Il invita les hommes à entrer dans le royaume de Dieu et à participer à la vie éternelle, les incitant à acquérir des perfections humaines. Cette radieuse étoile indiqua la voie lumineuse à l'humanité, puis, à la fin, sacrifia sa vie pour elle. Tout au long de sa sainte existence, le Christ endura les persécutions et les souffrances, et malgré cela, l'humanité fut son ennemie. Les hommes le renièrent, le méprisèrent, le malmenèrent et le maudirent, ne le traitant pas comme un être humain. Et pourtant, en dépit de tout, il fut la personnification de la pitié, de la bonté suprême et de l'amour. Il aima tous les hommes, mais eux le traitèrent en ennemi et furent incapables de l'apprécier. Ils n'accordèrent aucune valeur à ses paroles et ne furent pas illuminés par la flamme de son amour. Plus tard, ils découvrirent qui il était. Il était la lumière divine et sacrée, et ses paroles donnaient la vie éternelle. Son cœur fut rempli d'amour pour l'humanité tout entière. Sa bonté était destinée à tous les êtres. Quand les hommes commencèrent à s'en rendre compte, ils se repentirent, mais il avait été crucifié. Ce fut seulement bien des années après son ascension qu'ils comprirent qui il était, car à l'époque, il n'avait que très peu de disciples. Quelques-uns seulement croyaient à ses préceptes et observaient ses lois. L'ignorant disait « Qui est cet individu? Il n'a que quelques disciples. » Mais ceux qui savaient disaient « Il est le soleil qui brillera sur l'Orient et l'Occident, la manifestation qui donnera la vie au monde. » Ce que les premiers disciples avaient compris, le monde s'en rendit compte plus tard. Aussi, vous qui êtes en Europe, ne soyez pas découragés parce que vous êtes peu nombreux ou parce que l'on pense que votre cause est sans importance. S'il ne vient que peu de personnes à vos réunions, ne perdez pas courage. Et si vous êtes en butte aux contradictions et tournés en ridicule, n'en soyez pas affligés. Car les apôtres du Christ eurent le même sort. Ils furent abaissés et persécutés, maudits et maltraités, mais à la fin, ils eurent la victoire et leurs ennemis furent confondus. Si l'histoire devait se répéter et qu'il en advint de même pour vous, n'en soyez pas attristés, mais soyez pleins de joie, et remerciez Dieu de vous avoir appelés à souffrir comme ses saints d'autrefois. Si vous rencontrez de l'opposition, faites preuve de douceur. Si l'on vous contredit, restez ferme dans votre foi. Si quelqu'un vous délaisse et vous fuit, recherchez-le pour lui témoigner votre bienveillance. Ne faites de mal à personne. Priez pour tous. Tâchez de faire rayonner votre lumière sur le monde et de faire flotter votre étendard bien haut dans les cieux. Le parfum suave de vos vies exemplaires pénétrera partout. La lumière de vérité allumée dans vos cœurs resplendira jusqu'au lointain horizon. L'indifférence et le mépris du monde n'ont aucune importance, alors que votre vie, elle, est de la plus haute importance. Tous ceux qui cherchent la vérité du royaume céleste luiront comme des étoiles. Ils sont semblables à des arbres fruitiers surchargés de fruits sélectionnés, ou encore à des océans remplis de perles précieuses. Ayez simplement foi en la grâce de Dieu et répandez la vérité divine. Chapitre 39. Causerie d'Abdu'l-Bahá au foyer de l'âme, le temple du pasteur Wagner. Je suis profondément touché des paroles de sympathie qui m'ont été adressées, et j'espère que l'amour sincère et l'affection grandiront de jour en jour entre nous. Dieu a voulu que l'amour soit une force vitale dans la création, et vous savez tous à quel point je me réjouis de parler de l'amour. À travers tous les âges, les prophètes de Dieu ont été envoyés sur terre pour servir la cause de la vérité. Moïse apporta la loi de la vérité, et après lui, tous les prophètes d'Israël cherchèrent à la répandre. Quand Jésus vint, il alluma la torche flamboyante de la vérité, et il l'éleva bien haut, de manière à illuminer le monde entier. Ses apôtres choisis par lui vinrent ensuite, portant au loin dans le monde ténébreux la lumière de l'enseignement de leur maître. Puis, à leur tour, ils disparurent. Alors parut Mohammed, qui, à son époque et selon sa voix, répandit la connaissance de la vérité parmi des peuples sauvages, car telle fut toujours la mission des élus de Dieu. Aussi, lorsque Baha'u'llah à la fin parut en Perse, son plus ardent désir fut de rallumer dans tous les pays la lumière vacillante de la vérité. Tous les saints de Dieu se sont appliqués avec la plus grande ardeur à répandre la lumière de l'amour et de l'unité à travers le monde, pour que les ténèbres du matérialisme disparaissent et que la lumière de l'esprit illumine tous les enfants des hommes. Alors la haine, la calomnie et le meurtre ayant disparu, l'amour, l'unité et la paix pourront régner à leur place. Toutes les manifestations de Dieu sont venues avec le même dessein, et toutes ont cherché à guider les hommes dans les voies de la vertu. Cependant, nous, leurs serviteurs, continuons à nous disputer. Pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi ne vivons-nous pas dans l'amour et l'unité? C'est parce que nous avons fermé les yeux aux principes fondamentaux de toutes les religions, c'est-à-dire que Dieu est un, qu'il est notre Père à tous, et que nous sommes plongés dans l'océan de sa grâce, abrités et protégés par sa tendre sollicitude. Le glorieux soleil de vérité brille pour tous de la même manière. Les eaux de sa miséricorde divine inondent chacun, et à tous ses enfants, il dispense sa faveur divine. Ce Dieu d'amour désire la paix pour toutes ses créatures. Pourquoi donc passent-elles leur temps à se faire la guerre? Il aime et protège tous ses enfants. Pourquoi eux l'oublient-ils? Il nous accorde à tous sa vigilance paternelle. Pourquoi négligeons-nous nos frères? Lorsque nous comprendrons combien Dieu nous aime et veille sur nous, nous devrons assurément organiser notre vie de manière à mieux lui ressembler. Dieu nous a créés tous sans exception. Pourquoi agissons-nous contre ce qu'il désire, puisque nous sommes tous ses enfants et que nous aimons le même Père? Ces querelles, ces contestations et ces divisions que nous voyons de toutes parts proviennent du fait que les hommes s'attachent aux rituels et aux pratiques extérieures tout en oubliant la simple vérité de base. Ce sont les pratiques extérieures de la religion qui sont tellement différentes et qui provoquent les querelles et l'hostilité. Cependant que la réalité demeure toujours la même et qu'elle est une. La réalité, c'est la vérité, et celle-ci n'a pas de division. Cette vérité réside dans les directives que Dieu nous donne. Elle est amour, elle est miséricorde, elle est la lumière du monde. Ces attributs de la vérité sont aussi des vertus humaines inspirées par l'Esprit Saint. Restons donc tous fermement attachés à la vérité et nous serons vraiment libres. Le jour approche où toutes les religions du monde s'uniront. Car dans leur essence, elles sont déjà une. Il n'y a pas de raison de désunion, puisque ce sont les formes extérieures seules qui les séparent. Parmi les enfants des hommes, quelques âmes souffrent à cause de leur ignorance. Hâtons-nous de les instruire. D'autres sont comme des enfants qui ont besoin d'être formés et entourés de sollicitude, jusqu'à croissance complète. D'autres sont malades. À cela, il nous faut apporter la guérison divine. Qu'ils soient malades, ignorants ou semblables à des enfants, il faut les aimer, les aider et non pas les détester à cause de leur imperfection. Le rôle des chefs religieux est d'apporter la guérison spirituelle au peuple et de faire régner l'harmonie entre les nations. S'ils deviennent la cause de division, mieux vaudrait qu'ils n'existent pas. Un remède est destiné à guérir une maladie. Mais s'il ne fait que l'aggraver, il est préférable de l'abandonner. Si la religion devait n'être qu'une cause de discorde, il vaudrait mieux qu'il n'y en eût pas. Toutes les manifestations divines que Dieu nous a envoyées ont supporté leurs souffrances et leurs terribles épreuves dans le seul espoir de répandre la vérité, l'unité et la concorde parmi les hommes. Le Christ a enduré une vie de douleur, de peine et d'affliction pour apporter au monde l'exemple parfait de l'amour. Et en dépit de cela, nous continuons à agir dans un esprit contraire les uns envers les autres. Le principe fondamental que Dieu a fixé comme but pour l'homme, c'est l'amour. Et il nous a demandé de nous aimer les uns les autres comme il nous aime. Toutes ces querelles et ces discordes qui sévissent partout contribuent seulement à accroître le matérialisme. La plus grande partie du monde a sombré dans le matérialisme et ignore les bienfaits de l'Esprit-Saint. La véritable notion du spirituel est bien faible. Presque tous les progrès sont uniquement d'ordre matériel. Les hommes deviennent comme des bêtes qui périssent, car nous savons qu'elles n'ont pas le sens du spirituel. Ils ne se tournent pas vers Dieu, ils n'ont aucune religion. Ces notions n'appartiennent qu'à l'homme. S'il ne les possède pas, il reste prisonnier de la nature et il n'est aucunement supérieur à l'animal. Comment l'homme peut-il se contenter de mener simplement une existence animale quand Dieu a fait de lui une créature si élevée? Toute la création est assujettie aux lois de la nature, mais l'homme s'est montré à même de vaincre ces lois. Le soleil, malgré sa puissance et sa splendeur, dépend des lois de la nature et ne peut modifier sa course, fût-ce de l'épaisseur d'un cheveu. L'immense et formidable océan est impuissant à modifier le flux et le reflux de ses marées. Rien, sauf l'homme, ne peut résister aux lois de la nature. En effet, Dieu a doué l'homme d'une puissance si merveilleuse qu'il est capable de guider, maîtriser et contrôler la nature. Selon la loi naturelle, l'homme ne peut se déplacer que sur la terre, mais il fabrique des vaisseaux et il sillonne les airs. Créé pour vivre sur la terre ferme, il navigue sur les mers et même voyage dans les profondeurs marines. Il s'est exercé à contrôler la force de l'électricité. Il en dispose à son gré et parvient à la retenir dans une ampoule. La voix humaine ne peut porter qu'à de faibles distances, mais le pouvoir de l'homme est tel qu'il a fabriqué des instruments portant sa voix de l'est à l'ouest. Tous ces exemples vous montrent comment l'homme peut commander à la nature et comment, lui arrachant pour ainsi dire son arme, il l'utilise contre elle-même. Étant donné que l'homme a été créé pour être le maître de la nature, quelle folie de sa part d'en devenir l'esclave. Quel aveuglement et quelle stupidité d'honorer et d'adorer la nature quand Dieu, dans sa bonté, nous en a fait les maîtres. La puissance de Dieu est visible pour tous. Cependant, les hommes ferment les yeux et ne la voient pas. Le soleil de vérité brille dans toute sa splendeur, mais leurs yeux sont hermétiquement clos. Ils ne peuvent contempler sa gloire. C'est mon ardente prière que par la grâce et la tendre bonté de Dieu, vous soyez tous unis et remplis d'une joie ineffable. Je vous supplie tous, les uns et les autres, de joindre vos prières aux miennes pour faire cesser les guerres et les massacres, afin que l'amour, l'amitié, la paix et l'unité puissent régner dans le monde. Nous constatons à quel point le sang a souillé la terre au cours des siècles passés. Mais aujourd'hui, un rayon de lumière plus puissant est apparu. L'intelligence de l'homme est plus ouverte, la spiritualité commence à se développer, et le temps approche où, cela est certain, toutes les religions du monde vivront en paix. Abandonnons les divergences d'opinion sur les formes extérieures et unissons-nous pour hâter le développement de la divine cause de l'unité jusqu'à ce que tous les humains, réunis dans l'amour, sachent qu'ils ne sont qu'une seule famille. Partie 2. Causerie sur des principes de Baha'u'llah. Chapitre 40. Causerie d'Abdu'l-Baha à la Société théosophique. Depuis mon arrivée à Paris, j'ai entendu parler de la Société théosophique, et je sais qu'elle est constituée par des personnes honorées et respectées. Vous êtes des intellectuels et des penseurs imbus d'idéal spirituel, et c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous. Remercions Dieu qui nous a rassemblés ce soir. J'en retire une grande joie, car je vois que vous êtes des chercheurs de vérité. Vous n'êtes pas enchaînés par les préjugés, et votre plus grand désir est de connaître la vérité. La vérité peut être comparée au soleil. Le soleil est le corps lumineux qui disperse toutes les ombres. De la même manière, la vérité dissipe les brumes de notre imagination. Ainsi que le soleil donne la vie au corps de l'homme, De même, la vérité donne la vie à son âme. La vérité est un soleil qui surgit en différents points du ciel. Parfois, le soleil s'élève au milieu de l'horizon. En été, il s'élève plus au nord, en hiver, plus au sud, mais c'est toujours le même soleil, quels que soient les différents lieux où il paraît. De même, la vérité est une, bien que ses manifestations puissent être très différentes. Il est des hommes qui ont des yeux et qui savent voir. Ils adorent le soleil à quelques points de l'horizon qu'ils paraissent. Et quand il a quitté le ciel d'hiver pour le ciel d'été, ils savent comment le retrouver. D'autres n'adorent que le lieu où il se lève, et quand, dans toute sa gloire, il s'élève d'un autre horizon, ils continuent à contempler celui où il était apparu auparavant. Hélas, ces hommes se privent de ses bénédictions. Ceux qui adorent vraiment le soleil lui-même le reconnaîtront quel que soit son lieu d'apparition et ils tourneront immédiatement leur visage vers lui. Nous devons adorer le soleil lui-même et pas simplement l'endroit où il se lève. De la même manière, les hommes au cœur éclairé adorent la vérité quel que soit le pays où ils la rencontrent. Ils ne s'attachent pas à la personnalité, mais ils recherchent et suivent la vérité, et ils sont capables de la reconnaître d'où qu'elle puisse provenir. C'est cette même vérité qui aide l'humanité à progresser et qui donne la vie à toute créature, car elle est l'arbre de vie. Dans ses enseignements, Baha'u'llah nous explique ce qu'est la vérité, et je désire vous en parler brièvement, car je vois que vous êtes plein d'entendement. Chapitre 41. Premier principe de Baha'u'llah, recherche de la vérité. L'homme doit se libérer de tout préjugé et de ce qui provient de sa propre imagination afin de pouvoir rechercher la vérité sans aucune entrave. La vérité est la même dans toutes les religions et par elle, l'unité du monde peut être réalisée. Tous les peuples ont en commun une même croyance fondamentale. La vérité, qui est une, ne peut être divisée. Et les différences qui paraissent exister parmi les nations proviennent seulement de leur attachement aux préjugés. Si seulement les hommes cherchaient la vérité, ils se trouveraient unis. Chapitre 42. Second principe de Baha'u'llah, unité du genre humain. Le Dieu un, tout amour, répand sa grâce et sa faveur divine sur tous les humains. Ceux-ci sont les serviteurs du Très-Haut qui répand sa bonté, sa miséricorde et sa tendre sollicitude sur toutes ses créatures. La gloire de l'humanité est l'héritage de chacune d'elles. Tous les hommes sont les feuilles et les fruits d'un seul et même arbre. Ils ont la même origine. Ils sont les branches de l'arbre d'Adam. La même pluie les a tous arrosés. Le même soleil ardent les a fait croître et la même brise les a tous rafraîchis. Les seules différences qui existent et qui les séparent sont celles-ci. Il y a des enfants qui ont besoin d'être guidés, des ignorants à instruire, des malades à soigner et à guérir. Voilà pourquoi je dis que toute l'humanité est enveloppée par la clémence et la grâce de Dieu. Comme les saintes Écritures nous le disent, tous les êtres sont égaux devant Dieu. Il ne fait aucune différence entre eux. Chapitre 43. Troisième principe de Baha'u'llah. Religion, cause d'amour et d'amitié. La religion devrait unir tous les cœurs et faire disparaître les guerres et les dissensions de la surface de la terre. Elle devrait faire naître la spiritualité et donner la vie et la lumière à chaque âme. Si la religion devient une cause d'inimitié, de haine et de division, mieux vaudrait qu'elle n'existât pas. Abandonner une telle religion serait un véritable acte religieux. Car il est clair que le but d'un remède est de guérir. Mais si le remède ne fait qu'aggraver le mal, mieux vaut le laisser de côté. Toute religion qui n'est pas une cause d'amour et d'unité n'est pas une religion. Tous les saints prophètes furent en quelque sorte comme des médecins pour l'âme. Ils donnèrent des prescriptions pour guérir l'humanité. Aussi, tout remède qui rend malade ne provient pas du médecin éminent et suprême.